Que la grâce et la paix vous soient données à toutes et à tous de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Sauveur. Soyez dans la joie aujourd'hui, il y a plein de soleil, on en profite. La lumière est éteinte dans le temple, comme vous pouvez le remarquer. Donc, c'est particulièrement sympathique de le constater. J'espère que cette belle journée et ce soleil va illuminer vos cœurs aux uns et aux autres, évidemment. Soyez les bienvenus pour ce moment de culte, évidemment. Comme nous le faisons d'habitude, nous accueillons tout le monde avec un très grand plaisir, et quelles que soient les appartenances des uns et des autres, évidemment, quel que soit leur âge aussi, puisqu'aujourd'hui, nous avons en particulier les enfants d'école biblique qui assistent, comme ils le font maintenant, au début du culte, lorsqu'ils ont le catéchisme. Alors, soyez les bienvenus, que vous soyez jeunes ou moins jeunes, évidemment, pour ce moment de réflexion, de méditation et de prière. Alors, la bonne nouvelle, on dirait, comment elle se manifeste-t-elle ? Eh bien, elle se manifeste dans les récits de la Bible, évidemment, que nous pouvons suivre et interpréter. Alors, étant donné que les enfants de l'école biblique se penchent sur l'histoire de Noé, je voudrais revenir un petit peu sur cette histoire. Vous savez que le monde de l'époque de Noé est un monde terrible dans lequel les hommes sont particulièrement bêtes et méchants. Voilà, vous me direz, ça n'a peut-être pas beaucoup changé. Mais il n'empêche que dans la Bible, il est bien stipulé que le monde est corrompu, comme on dit. C'est-à-dire corrompu, c'est-à-dire que les hommes sont peu intéressants, qu'on peut les acheter facilement, qu'ils peuvent être menteurs et violents et que sais-je encore. Mais dans ce monde qui est complètement à la dérive, qui est perdu, qui est corrompu, il y a un homme qui s'appelle Noé, qui lui est juste, qui suit la parole de Dieu. Et du coup, Dieu, devant cet état des lieux, Dieu décide de tout effacer, de tout recommencer. Voilà. Mais il va prévenir Noé que, il a décidé de sauver Noé et de sauver les animaux de cette catastrophe que Dieu va provoquer pour éradiquer le mal qu'il y a dans le monde. Alors, il dit à Noé de construire un grand bateau. Vous le savez, il s'appelle comment le bateau ? L'arche, voilà. C'est ça, je l'ai entendu. Je ne sais pas si tout le monde a entendu, mais moi j'ai entendu. Vous savez combien il mesure à peu près de long ? À peu près 150 mètres de long. C'est un gros bateau, hein ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, construire un gros bateau de 150 mètres de long en bois, enfin bref, c'est pas une simple affaire. Mais enfin, c'est comme ça. C'est un très très gros bateau. Alors, il faut un gros bateau parce que, évidemment, il faut mettre les animaux, un couple de chaque animal dans le bateau. Donc, ça fait beaucoup d'animaux. Hein. Qu'est-ce que vous voyez comme animaux qu'on pourrait mettre dans le bateau ? Des pigeons, des lions, pas commode ça. Des éléphants, une girafe. Elles sont sympathiques, les girafes, parce qu'elles sont muettes et font pas de bruit. Eh ouais. Des escargots, bah oui. Surtout que c'est normalement bon à manger. Quoi d'autre ? Deux hommes, oui. Ben, il y a Noé et sa famille pour présenter les hommes, bien sûr. Vous en voyez d'autres animaux ? Il y en a plein d'autres, des cochons. Des cochons. Alors, ce qu'on va faire, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit dans la Bible, et qu'on va vous montrer, avec les enfants d'école biblique, ils ne le savent pas, on va vous le montrer. C'est comment ça se passait dans l'arche. Ça, vous ne le savez pas. Il n'y a aucun récit biblique qui vous dit comment ça se passait dans l'arche. Eh bien, on va vous le révéler là. Vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça. Alors, j'ai demandé à tous les enfants d'école biblique et aux catéchètes de venir ici. Venez avec moi, là. Alors, vous êtes en train de demander quelle facétie on vous a réservé. Vous allez vite comprendre. Alors, mettez-vous ensemble, bien. On va faire quatre groupes. Hein. Moi, en lisant le récit de Noé, je me suis dit quand même comment ça se passait dans l'arche. Alors on peut penser que ça se passait bien. Il y avait des cases et donc chaque animal pouvait entrer dans une case. Pas plus fort, hein, Colère. Non, les éléphants, ça, c'est un peu compliqué. Ou les cochons. Les cochons. Allez, faites les cochons là, voir un peu. Pour vous donner une idée un petit peu de ce que ça représente, eh bien, vous allez ensemble faire le bruit des animaux. 1, 2, 3, allez-y, fort. Avouez que vous n'y avez pas pensé, hein. Bien, vous saurez que la vie quotidienne, les enfants ici seront à vie, et vous aussi, vous saurez que la vie quotidienne dans l'arche de Noé n'était pas si simple que ça, je veux dire, et que ça a duré 40 jours de pluie et 150 jours après. Voilà, je vous invite à rejoindre vos places, et maintenant que vous savez les secrets de l'arche, on reviendra dessus. Voilà une partie du récit, parce que le récit est assez long de l'Arche de Noé, dans la Genèse. Voilà ce qui est dit au chapitre 6, versets 7 et suivants. « À cause des eaux du déluge, Noé entra dans l'Arche, et avec lui ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. » Donc voilà les hommes qui sont représentés dans l'Arche, évidemment. « Des animaux purs et des animaux impurs. » Donc les animaux impurs, qu'est-ce qu'il y a comme animal impur ? Il y a le cochon, il y a les serpents, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme animal sympathique ? La grenouille, le lapin. Ah, le scorpion, je sais pas, mais le lapin est un animal impur, aussi bizarre que ça puisse sembler. Il y a des raisons, mais c'est un peu compliqué. Non, le lion, il n'est pas impur. Il est terrible, mais il n'est pas impur, le lion. Il y a des animaux purs et impurs. Des oiseaux, on en a parlé là, des oiseaux, il y a un pigeon là, entre autres. Des oiseaux et tout ce qui remue sur le sol, couple par couple, mâle et femelle, ils vinrent à Noé dans l'arche comme Dieu l'avait prescrit à Noé. Et 7 jours passèrent et les eaux du déluge submergèrent la terre. En l'an 600 de la vie de Noé, au 2e mois, au 17e jour du mois, ce jour-là, tous les réservoirs du grand abîme furent rompus et les ouvertures du ciel furent béantes. La pluie se déversa sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Et en ce même jour, Noé entra dans l'arche avec ses fils, Sem, Cham et Japhet, et avec eux la femme de Noé et les trois femmes et ses fils, ainsi que toutes les espèces de bêtes, toutes les espèces de bestiaux, toutes les espèces de petites bêtes qui remuent sur la terre, toutes les espèces d'oiseaux, tout volatile, toutes bêtes ailées. Ils vinrent à Noé dans l'arche, couple par couple, et de toute créature animée de vie. C'était un mâle et une femelle de toute chair qui entraient, ils entrèrent comme Dieu l'avait prescrit à Noé. Le Seigneur ferma la porte de l'arche sur lui. Le déluge eut lieu sur la terre pendant 40 jours. Et les eaux grossirent et soulevèrent l'arche qu'il s'éleva au-dessus de la terre. Et les eaux furent en crue et formèrent une masse énorme sur la terre. Et l'arche dériva à la surface des eaux. La crue des eaux devint de plus en plus forte sur la terre et sous toute l'étendue des cieux, toutes les montagnes les plus élevées furent recouvertes par la hauteur de 15 coudées. Et avec la crue des eaux qui recouvrirent les montagnes, expira toute chair qui remuait sur terre, oiseaux, bestiaux, bêtes sauvages, toutes les bestioles qui grouillaient sur la terre. Cette crue qui va durer pendant 150 jours. Voilà Noé qui est sur son bateau. Et vous savez comment ça finit cette affaire ? Noé envoie une colombe. Il envoie d'abord un corbeau. Puis le corbeau, il revient, il n'a rien trouvé. Il envoie une colombe, oui. Il envoie une colombe qui finit par revenir avec une branche d'olivier. Ça veut dire quoi ? S'il revient l'oiseau avec une branche dans le bec, ça veut dire qu'ils sont pas loin du rivage. C'est la fin du déluge. Et Dieu va mettre dans le ciel un signe pour montrer que c'est la fin du déluge et que Dieu recommencera plus du tout. C'est l'arc-en-ciel. Très bien. Formidable. Vous le saviez tous, les adultes, là. Bien sûr. Si vous le savez pas, vous viendrez faire le cri des animaux à la fin du culte. Vous allez au claté, c'est comme vous voulez. C'est ça, la grâce. Vous voyez, la grâce, c'est qu'il y a une alliance dans le ciel qui est signifiée par l'arc-en-ciel. D'abord, c'est joli, un arc-en-ciel, et ça nous dit que après la pluie, il y a le beau temps. Et c'est ça, c'est un signe d'espérance. N'oubliez pas, toujours, même dans les moments les plus difficiles, même quand il y a le déluge, il y a toujours un moment donné où il y a un signe d'espérance. C'est ce qu'on appelle la grâce, entre autres. Eh bien, avant de vous lâcher, les enfants de l'école biblique, je vous invite à prendre, à toute l'assemblée évidemment, le chant du psaume 33. C'est un grand classique, hein. Toutes les histoires de la Bible, toutes les prédications qu'il y a dans la Bible, tous les livres de sagesse qu'il y a dans la Bible peuvent se résumer en ces deux grandes paroles. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est là la plus grande des paroles. La seconde lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de parole plus grande que ces deux-là. Amen. Je vous invite à prendre dans le livret bleu, la page 15. Je vous invite à prier Dieu. Père, nous voilà face à toi. Peut-être trop souvent sur notre réserve pour te dire nos prières, chanter tes louanges. Peut-être n'ayant plus la spontanéité de la jeunesse comme nous l'avons vu il y a quelques minutes. Mais nous sommes là face à toi avec nos vies que nous te remettons, que nous déposons à tes pieds. Oui, Père, nous ne savons pas très bien par quoi commencer, soit par des oublis, soit des paroles de trop, soit par des gestes déplacés. Nous avons tant et tant de choses à te dire. Et toi, Père, tu nous connais. Tu es capable de nous accueillir tels que nous sommes avec nos silences et nos paroles de trop. Il y a aussi ces bons moments que nous voudrions te remettre, la joie d'être ensemble ici, dans ce temple, avec ces enfants de l'école biblique que nous avons vus tout à l'heure, mais aussi avec des visages que nous connaissons bien, que nous avons plaisir à revoir, et d'autres visages que nous avons la joie d'accueillir. Oui, Père, nous te remettons nos vies avec les moments de zone d'ombre et les moments de soleil qui sont là. Toi seul es capable de faire un tri sérieux dans ces vies, de nous recevoir tels que nous sommes et de nous dire combien tu nous aimes. Amen. Nous le disons, nous le répétons sans cesse, Jésus-Christ n'est pas venu dans le monde pour nous délivrer un discours de punition, de récompense, que sais-je encore, mais pour nous dire qu'il y a dans le monde un amour inconditionnel qui est là pour nous faire vivre, finalement, que nous appelons la grâce, peut-être, ou la déculpabilisation, je ne sais pas quel mot il faudrait utiliser pour dire cela, mais dans tous les cas, l'amour de Dieu est bel et bien inscrit dans le monde, quoi que nous fassions, qui que nous soissions. Cet amour s'adresse à tout un chacun pour que nous puissions vivre dans la joie et dans la reconnaissance. Tout à l'heure, avec ces enfants de l'école biblique, nous avions des signes de cette grâce. Comme je disais dans la prière, leur spontanéité, leur joie de vivre, finalement. Et puis aussi, les connaissances qu'ils ont d'histoire de Noé, finalement, sont là pour nous dire qu'il y a des moments de joie qu'on partage comme cela, qui sont aussi des moments d'espérance de voir tous ces jeunes ainsi. Et donc, j'espère que ça se prolongera, évidemment. Mais je pense et j'espère que les uns et les autres, vous avez aussi dans vos vies des moments de lumière, comme je disais dans la prière, de soleil, des moments de joie, des moments d'espérance qui viennent vous toucher pour que vous puissiez vivre dans la liberté et la dignité des enfants de Dieu. Oui, Christ n'est pas venu dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde puisse vivre d'une vie et d'une vie éternelle. Amen. Je vous invite à la suite de cette annonce du pardon, de la grâce, à confesser notre foi. Je crois en Dieu, notre Père, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a souffert et mort et qui nous pardonne. Il est la vie, la lumière du monde et son règne dépassera le temps. Et malgré notre faiblesse, je crois qu'en Jésus-Christ, Dieu est l'espérance des hommes et l'homme est l'espérance de Dieu. Je crois en l'Esprit, présent au monde et au cœur des hommes. L'Esprit donne la paix aux hommes de bonne volonté. L'Esprit de Dieu crée, recrée le monde, le dynamise, le conduit vers le royaume. Je crois à la communion de tous dans la foi, l'espérance et l'amour. Je crois à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. Amen. Père, merci pour l'annonce de la grâce. Merci pour ces enfants de l'école biblique. Merci pour cette journée que tu nous offres en ta présence. Au moment de partager le témoignage de l'Écriture, Père, que ton esprit soit sur chacune et chacun d'entre nous afin que nous puissions réaliser combien ce témoignage est porteur d'espérance et de vie. Amen. Et donc, je vous invite à entendre un deuxième passage de la Genèse au chapitre 9, les versets 9 et suivants. C'est la fin de l'histoire du déluge. Je vais établir mon alliance avec vous, avec votre descendance, avec vous et après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages qui sont avec vous. Bref, tout ce qui est sorti de l'arche avec vous, même les bêtes sauvages. J'établirai mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit, voici le signe de l'alliance que je mets entre moi et vous et tout être vivant avec vous pour toutes les générations futures. J'ai mis mon arc dans la nuée pour qu'il devienne un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand je ferai apparaître des nuages sur la terre et qu'on verra l'arc dans la nuée, je me souviendrai de mon alliance entre moi, vous et tout être vivant, quel qu'il soit. Les eaux ne deviendront plus jamais un déluge qui détruirait toute chair. L'arc sera dans la nuée et je regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tout être vivant, toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, c'est le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et toute chair qui est sur la terre. Et puis, à l'autre bout de la Bible, si je puis dire, dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, ce passage extrêmement célèbre aussi, qui est l'apparition au bord du lac. Donc le chapitre 21, les versets 1 à 14. Après cela, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici comment il se manifesta. Simon Pierre, Thomas, qu'on appelle Didyme, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Et ils lui dirent, « Nous allons avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans la barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. C'était déjà le matin, et Jésus se tint là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Et il leur dit, « Et les enfants, n'avez-vous pas un peu de poisson ?»« Non, lui répondirent-ils. » Et il leur dit, « Jetez le filet de côté droit de la barque, vous trouverez. » Ils le jetèrent, et il y eut tant de poissons qu'ils ne pouvaient plus le ramener. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur. » Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre ceignit un vêtement, car il était nu, et il se jeta à la mer. Les autres disciples revinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas bien loin de la rive, à 200 coudées environ. Une fois descendus à terre, ils virent un feu de braise sur lequel on avait disposé du poisson et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta donc dans la barque et tira à terre le filet que remplissaient 153 gros poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui poser la question, « Qui es-tu ? » Il savait bien que c'était le Seigneur. Alors Jésus vient, il prend le pain et le leur donne, il fit de même avec le poisson. Et ce fut la troisième fois que Jésus se manifesta à ses disciples depuis qu'il s'était relevé d'entre les morts. Oui, Père, il y a des témoignages qui nous semblent parfois bien mystérieux. Nous avons bien besoin de ton esprit pour y voir un peu plus clair dans tout cela. Puissions-nous les uns et les autres être au bout d'une nuit avec un feu qui puisse nous guider dans la vie et dans l'éternité. Amen. Voilà, je vous invite à prendre le cantique 203. Puissions-nous, Père, chanter l'espérance comme nous venons de le faire le plus souvent possible pour signifier la joie que nous avons d'être en ta présence. Amen. On a souvent l'impression d'être embarqué sur un bateau comme ce malheureux Noé, une sorte de bateau ivre qui part à la dérive comme cela. Et il est vrai que l'actualité semble nous conforter dans cette idée avec la mondialisation qui est là, qui nous dépasse, la montée des intégrismes, la révolution scientifique à laquelle nous assistons et qui va à une vitesse vertigineuse évidemment. Le chômage, les pays émergents, la surpopulation, l'écologie, il y a tant et tant de problèmes qui se posent à nous qu'on ne sait plus très bien dans quelle direction aller et aussi comment échapper à tout cela. Le monde est complexe, très complexe aujourd'hui, et il est opaque aussi, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien de quoi sera fait l'avenir, on n'a pas trop d'idées finalement. Alors c'est vrai que dans nos vies personnelles aussi, il y a des sentiments d'inquiétude parfois, des moments difficiles évidemment, des sentiments d'insécurité, et puis il y a le chômage qui est là, qui frappe bien des familles et bien des personnes. Et on n'est pas étonné de voir que les cabinets de psychologues soient pleins aujourd'hui. Je veux dire, les gens ont souvent un mal-être qui est important. Alors même si ce dont je parle là a l'air un petit peu catastrophique, et même si ça ne correspond pas en fait à la réalité, il n'empêche que c'est comme cela que c'est vécu. Pour nous, il y a bien des questions qui se posent aussi. La culture générale que nous voudrions plus importante, évidemment, surtout avec les moyens de communication, de diffusion qui sont dans nos mains à l'heure actuelle. Peut-être un manque d'esprit critique aussi. Vous voyez que les protestants sont des gens qui ont l'habitude de protester, comme on dit, mais encore faut-il en avoir les moyens, ça va de soi. Et puis l'espérance qui nous manque à tous, peut-être les idéologies qui sont en sommeil expliquent peut-être cela. Et puis nos églises, elles semblent bien ballottées aussi au gré des événements. Prenez le mariage pour tous, par exemple, avec la bénédiction telle que les églises protestantes unies de France l'ont voté, eh bien, on peut se dire qu'après les remous que cela a créé, que tout cela est quand même dommage, finalement, qu'on n'arrive pas à un consensus à s'accepter les uns les autres. Le paysage plurireligieux. Hier, moi, quand j'étais enfant, il y avait en face de nous des catholiques, en gros, quelques juifs, on en voyait un de temps en temps, Je veux dire, quand j'étais au lycée, il y avait toujours un protestant et un juif dans une classe, quoi, en gros, peu de choses près. Donc on se retrouvait, évidemment, face à tous ceux qui, en quatrième ou en troisième, disparaissaient brusquement aux alentours de Pâques ou de Pentecôte pour faire une retraite catholique. Donc on se retrouvait, mais il n'y avait que les catholiques, enfin c'était assez simple. Mais aujourd'hui, vous avez les gens qui se déclarent agnostiques, d'autres qui se disent athées. Vous avez ceux qui se disent bouddhistes. Il y a une revue bouddhiste, là, j'ai appris, qui se diffuse à 20 000 exemplaires. Ça fait déjà pas mal. Quelque chose qui est nouveau dans le paysage. Enfin, nouveau, quelques décennies, évidemment. Je veux dire, il y a la montée de l'islam aussi, et tant d'autres choses qui sont là, sans parler des syncrétismes religieux que le New Age a laissé sur le rivage en se retirant. Et donc, on est là, on ne sait pas très bien comment se situer, voilà, d'autant plus que, en face de nous, nous avons parfois des hostilités déclarées. Je vous ai déjà dit que je me suis fait injurier plusieurs fois parce que j'étais pasteur et chrétien. Je veux dire, mais que dire dans d'autres pays où il y a des persécutions, des vraies persécutions qui sont sévères avec des morts, des assassinats. Alors, on peut se poser la question, mais que dit la Bible lorsque nous, étalons tout cela? Que dit la Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament? Alors, la Bible pose le problème du mal, les difficultés que les hommes ont et des questions qui se posent à eux et auxquelles ils essayent de répondre comme ils peuvent. Et la Genèse, au travers de sa mythologie, raconte cette histoire de Noé. Alors, c'est bien de la mythologie dont il s'agit. Le récit de Noé, on le retrouve dans les mythologies de l'Indus, de la vallée de l'Indus, on le retrouve dans les mythologies nord-américaines aussi, d'Amérique centrale, exactement la même histoire, avec quelqu'un qui est protégé des dieux parce qu'il est fidèle, qui se trouve sur un bateau en perdition avec des animaux, etc. Enfin bref, c'est assez intéressant de voir cela. On se demande si dans l'inconscient collectif des êtres humains d'aujourd'hui, il n'y a pas les effets dévastateurs qui sont restés dans la mémoire de la fonte des glaciers lors de la fin de la dernière glaciation, juste au moment du néolithique, si vous voulez. Et c'est une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut. On peut toujours la discuter. Mais dans tous les cas, il y a cela. Mais voyez, le sentiment d'être ballotté, comme si on était dans un bateau au gré des événements, peut aussi tout à fait expliquer cette mythologie qui est là dans la mémoire des hommes. Alors, il y a cette histoire de Noé qui est pourtant là. Noé qui est un homme de bien, comme je disais tout à l'heure aux enfants d'école publique, et qui se trouve là un peu perdu, en perdition, au milieu d'une population humaine qui est pervertie, d'un monde qui est pollué par cette perversion humaine. Et c'est vrai que si on y regarde de plus près, on pourrait se dire, mais finalement l'histoire de Noé, ça nous parle, hein, on peut se projeter facilement dans cette histoire, ou la récupérer pour nous y retrouver d'une certaine manière. Le déluge illustre cela, finalement. Noé est en perdition dans l'océan du mal, il sera en perdition sur cet océan à la suite de l'inondation du déluge. Il est toujours à la dérive. Et pourtant, dans son bateau, dans son arche, il est un signe d'espérance. Et dans le désert de l'eau, car les océans sont des déserts, il ne faut pas le perdre de vue, mais dans le désert de l'eau, eh bien, il est là comme un signe de vie, finalement, et un signe d'espérance. C'est ce qui fait peut-être la beauté de ce texte. Beauté de ce texte, c'est le fait que depuis qu'on est petit, on le retient. Il n'y a pas que les animaux qui sont là, qui accrochent, les enfants, évidemment. Mais peut-être qu'inconsciemment, ce message trouve de l'écho chez nous. Oui, il est un signe d'espérance. Il est un signe d'espérance parce que l'arche, le bateau, c'est comme une sorte de boîte, une sorte de coffre qui va être protecteur, finalement, et qui va protéger dans sa coquille la vie. Mais l'arche, nous savons aussi que c'est ce coffre en bois aussi, en bois d'acacia, si je ne me trompe, je ne me souviens plus très bien, pardonnez-moi, dans lequel se trouve la parole de Dieu, la fameuse loi, c'est la présence de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est signifié présent dans ce coffre, avec les chérubins qui sont dessus. Hein. Et on a ce coffre-là qui est le signe de l'espérance et de l'alliance pour Israël qui traverse le désert et qui se libère de l'esclavage. Vous voyez ? Là aussi, Israël ballotté dans le désert, avec la peur de l'Égypte derrière, l'inconnu devant, et ce désert tout autour se trouve réuni autour de ce coffre, de cette arche précisément, qui est l'arche de l'Alliance, évidemment. Et intéressant dans cette affaire, c'est qu'on va retrouver avec l'histoire de Noé une renaissance du monde, finalement. L'espèce humaine va repartir avec la création tout autour. Et avec l'arche de l'Exode, on va avoir un peu la même chose. Un peuple repart de ses cendres, de l'esclavage, de la négation de l'être humain précisément, parce que c'est un peu ça l'esclavage, et qui et va affirmer son nom, sa présence dans l'histoire, son être même autour de cette alliance, le coffre, avec en plus cet arc-en-ciel chez Noé et ces deux chérubins qui forment eux aussi une sorte d'arc au-dessus de l'arche, l'arc-en-ciel. Ou ces chérubins qui signifient à la fois un côté et l'autre, qui signifient peut-être le côté de l'être humain et le côté du monde et le côté de Dieu finalement qui se retrouvent là, réunis dans une alliance universelle et cosmique. C'est l'ensemble de la Terre qui est concernée, c'est pas seulement que l'espèce humaine. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de, je dirais, d'unité, je dirais, de communion entre Dieu, entre les êtres humains qui porte cette parole de Dieu dans le monde et le monde tout autour. L'histoire de la révélation est une histoire qui n'est pas seulement l'histoire des êtres humains, mais qui est une histoire cosmique. Oui, l'arche de Noé. Eh bien, cette arche de Noé, voyez-vous, avec son gigantisme, avec sa porte sur le côté et ses cases qu'il y a à l'intérieur, vous voyez, dont j'ai parlé avec les enfants en disant dans chaque case il y a un animal différent, ce qui fait qu'on peut mettre le loup à côté d'un mouton, le lion à côté d'un mouton sans que ça pose trop de problèmes. Eh bien, c'est l'architecture d'un temple païen. Vous voyez, c'est quand même amusant, je veux dire, de le constater. Alors, il est assez païen parce qu'à l'époque, on ne pense pas à païen et monothéisme comme nous le pensons aujourd'hui, mais c'est l'architecture d'un temple. Voyez, l'arche, ça devient le temple de Dieu finalement. Et ce temple est vraiment le temple de Dieu parce que la vie s'y exprime là-dedans, alors que tout autour, il n'y a que de la mort. Voyez. Et c'est pour ça que l'arche est porteuse d'espérance. Et c'est pour ça que l'arche de l'Alliance reflète la même symbolique, avec les mêmes mots précisément. Parce qu'il y a Dieu qui est présent, là aussi, à travers la parole, les 10 paroles, voyez, et que c'est porteur d'espérance, et que c'est porteur de vie. Nouvelle vie, nouvelle création sans cesse répétée à travers ces alliances. Mais vous me direz, il y a encore un coffre qui est important, c'est le tombeau. Le tombeau qui est vide avec les deux chérubins, précisément, à nouveau, tiens, comme c'est curieux. Il y a précisément pour nous dire, là, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'alliance. Mais d'une alliance qui est nouvelle, parce que alors là, l'arche est vide, le coffre est vide. Dire, il n'y a plus de Noé, il n'y a plus de disciples qui vont au tombeau. Terminé tout ça, ça va se passer ailleurs. Là, on passe de l'intérieur de l'arche et de l'environnement très proche à l'extérieur lointain. On va quitter le coffre lui-même, on va quitter l'arche, comme Noé va quitter l'arche avec ses enfants et les femmes de ses enfants et les animaux pour aller dans le monde à nouveau, pour porter une parole de vie, une sorte de renaissance. Il y a dans la Bible, à travers ces différents coffres, ces arches, un message de vie extrêmement fort qui passe, un message d'espérance assez extraordinaire qui est inscrit finalement et qui passe à travers de la mythologie, je veux dire, de la légende historique avec l'Exode et puis de l'expérience mystique avec cette expérience de résurrection que vont avoir les disciples. Parce que là, nous sommes encore dans la barque. Nous sommes encore sur un bateau avec l'histoire des disciples. Ils sont là sur leur bateau en perdition sur le lac et avec les catéchumènes tout à l'heure, je leur disais, mais voyez, on est quand même la nuit sur le lac avec les monstres qui sont au fond de l'eau tels qu'on le croyait autrefois, avec le Shéol qui est au fond de l'eau, qui est sous terre et au fond de l'eau tel qu'on le pensait autrefois. Et donc, avec la nuit et cet échec des disciples qui ne prennent rien, on est dans une ambiance de mort là aussi. Et il y a cette barque dans laquelle seront pris quand même finalement au filet 153 gros poissons finalement, et cette barque qui va arriver là où il y a la lumière, c'est-à-dire là où il y a le feu qui va les guider, qui va les faire vivre comme la lumière de l'arc-en-ciel va donner de l'espérance et faire vivre les hommes après le désastre finalement. Et là, on trouve les mêmes symboliques là, comme c'est curieux, vous voyez, qui fonctionne tout à fait bien à travers cette image de l'arche et à travers ces difficultés que les hommes peuvent rencontrer, les échecs qu'ils peuvent subir, la peur de la mort qu'ils peuvent avoir, mais à chaque fois, une espérance nouvelle, renouvelée, qui conduit, qui appelle les hommes vers la vie pour une nouvelle création. Les disciples vont devenir apôtres. Là aussi. Et l'Église qui est confinée au départ dans la région de Jérusalem, pouf, elle va éclater et aller vers le monde entier. Et cette barque, on va la retrouver encore après. On va la retrouver parce que quand on regarde l'iconographie dans les catacombes à Rome ou ailleurs, on voit souvent le bateau qui est là avec le mât. Le bateau, il est très schématiquement présenté, la barque, et puis vous avez le mât, avec le mât transversal qui porte un nom que les marins connaissent, mais moi que j'ignore complètement, mais peu importe, je veux dire, mais ça forme une croix, ça forme la croix. Et c'est pour ça que vous avez ce dessin dans les catacombes qui signifie que l'Église est comme une barque qui est surplombée, dominée, protégée par la croix du Christ, qui va sauver cette Église qui est en perdition à travers les persécutions que les empereurs, certains empereurs romains, lui font subir. Et lorsque les chrétiens se réunissent en prière dans les catacombes, ils ont cette image de la barque avec le Christ présent dans la barque avec eux. Et on retrouve, du coup, l'histoire de l'apparition au bord du lac. On va retrouver Jésus qui est dans la barque, dans les évangiles synoptiques. On va retrouver l'arche de l'Alliance. On va retrouver la barque de Noé, et ainsi de suite. L'Église est vue comme une barque. Pour ça que, vous disiez tout à l'heure, en commençant cette réflexion, vous voyez, on a le sentiment qu'on est dans la difficulté, qu'on est à la dérive. Oui, nous sommes peut-être à la dérive. Je veux dire, et certainement, on se sent pas très fort. Moi, quand je suis venu la première fois au foyer de l'âme en 1965 ou 6, je sais pas très bien, ça commence à dater, eh bien, c'était plein partout. C'était plein partout. Ça nous fait rêver, je veux dire. Mais en bas, il n'y avait plus de place, il y avait du monde sur les galeries. Voyez. Et donc aujourd'hui, alors que nous sommes, je sais pas moi, 50-60 à vue de nez comme ça, je veux dire, on peut dire on est une petite église peut-être à la dérive. Il y a des puissances qui sont autour de nous, il y a des questions qu'il faut résoudre, qui sont difficiles à résoudre, etc. Mais, comme une petite barque, il y a ce Christ qui est présent dans cette barque et qui est là pour nous donner un signe d'espérance. Nous sommes l'espérance dans le monde. Nous sommes l'espérance dans le monde. Nous sommes un lieu, l'Église, où on affirme la victoire de la vie sur la mort, de l'amour sur la haine, voyez, où on affirme l'espérance quand il n'y a plus d'espérance. Pour ça que nous sommes cette barque dans le monde, qui est un signe d'espérance. Quand je vous disais tout à l'heure qu'à travers toutes ces barques, il y a une présence de Dieu dans ces barques, qu'il y a une présence de Dieu qui est là. Et ce sont les hommes qui sont dans cette barque qui sont les porteurs d'espérance. Et c'est ça qui est une partie de la bonne nouvelle, parce que chacune et chacun d'entre nous ici présents, et les autres auxquels nous pensons évidemment, sont des porteurs d'espérance. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel. Nous ne sommes pas des gens lambda ballottés comme cela, sans sens, perdus dans l'immensité, non. Nous sommes peut-être dans cette immensité, dans les difficultés, mais nous sommes porteurs d'espérance. Nous sommes dans cette barque, véritablement. Et nous avons une mission les uns et les autres. C'est que dans la société dans laquelle nous sommes, notre mission, c'est d'être véritablement les porteurs de cette espérance. De dire non, le monde, même s'il nous semble très difficile à vivre, même s'il nous semble difficile à comprendre, il n'empêche que ce monde a un sens parce que Dieu est dans ce sens et que l'Église est le signe de ce sens, précisément, et que nous sommes dans cette Église. Et c'est ça qui fait que les êtres humains qui entendent le message de Dieu peuvent réaliser qu'ils ont de la dignité. Ils ont de la dignité auprès de Dieu, parce qu'ils sont prophètes de Dieu, parce qu'ils sont porteurs de cette parole. Tous les hommes peuvent l'être, évidemment. Ça va de soi. Le message est universel et l'amour de Dieu est universel. Comme je vous l'ai dit, l'amour a cette particularité qu'on peut découper à l'infini. La densité d'amour sera toujours la même. C'est ça qui est assez génial. Une mère aime tous ses enfants avec la même intensité, que ce soit le premier ou le dernier, normalement. Il peut y avoir différentes manières d'aimer, évidemment. Il peut y avoir des nuances. Mais l'amour peut se découper à l'infini. C'est ça qui est génial. Mais c'est à ceux, dans cet infini, il y a ceux qui ont conscience de cela. Alors ceux-là sont vraiment les prophètes du Très-Haut. Oui, nous sommes dans cette barque, nous sommes l'Église, nous sommes la lumière du monde, et nous sommes la lumière du monde pour apporter un message d'espérance, mais aussi un message de liberté, aussi évidemment, parce que l'amour, l'espérance ne peuvent fonctionner que dans un espace de liberté, véritablement, et aussi de dignité. Oui, nous sommes un lieu où on parle de la dignité de l'être humain. Chaque être humain, quel qu'il soit, quelle que soit son origine ou son appartenance, a du prix aux yeux de Dieu. Il faut le dire. Il faut le dire haut pour que les hommes, nos frères et sœurs, puissent l'entendre, pour qu'ils puissent vivre dans une société qui sera toujours aussi complexe, toujours aussi difficile, mais dans laquelle les êtres humains puissent retrouver du sens et de l'espérance. Amen. Voilà, quelques annonces. Tout à l'heure, dans ce temple, vous savez, puisque nous sommes le premier dimanche du mois, qu'il y aura une cantate à partir de 17h30. Donc, j'espère à tout à l'heure, je ne sais pas, peut-être. Alors, mardi, vous avez la pause biblique et nous verrons les femmes prophètes dans la Bible. Car il y a quelques femmes qui sont prophétesses dans la Bible, je veux dire, juges, etc., enfin bref. Et on n'en parle pas très souvent parce qu'on est un peu macho sur les bords, mais enfin, bon, c'est comme ça. Voilà. En ce qui vous concerne, si vous écoutez Fréquence Protestante, je crois que mercredi prochain, il doit y avoir quelque chose vers 13h pour le compte du journal Évangile et Liberté. Et donc, il y aura le foyer de l'âme qui sera largement mentionné dans cette émission du mercredi. Jeudi soir, à 19h30, vous avez le groupe œcuménique, car je vous dis qu'il y a un groupe œcuménique qui fonctionne hein, quand même, avec les catholiques, et on étudie les paraboles, et à Bon Secours, donc chez les luthériens, eh bien, on va se pencher sur la parabole des 10 vierges folles et des 10 vierges sages. Le vendredi soir, à 19h30, on a psychanalyse et foi. Quant à samedi prochain, vous avez une vente de livres, une braderie de livres, voilà, donc avec dédicaces, etc., enfin bref, et c'est à 11h30, voilà, cherchez l'heure de départ, de 11h30 à 18h. Donc n'hésitez pas à venir, on a énormément de livres. Profitez-en, vous savez ce que vous pouvez faire, vous en achetez un paquet, vous les lisez, puis vous les rendez. Si ça vous encombre, je veux dire, c'est quand même... Non, mais c'est comme ça qu'il faut faire, quoi, finalement, d'une certaine manière. Je vous donne une idée comme ça. Hein. Tiens, voilà. Donc venez nombreux, n'hésitez pas. Ensuite, c'est une occasion pour se retrouver, pour discuter. Peut-être vous, si tenant le pasteur dans vos griffes, vous voulez poser quelques questions, ben, ce sera une bonne occasion. Je veux dire, n'hésitez pas à venir. Là. N'hésitez pas à venir aussi à donner un coup de main pour la préparation de la chose, parce que les livres, c'est lourd. Hein? Vous voyez que si vous êtes, je ne sais pas si vous êtes habitué des déménagements, mais les déménageurs font toujours de petits cartons avec les livres. Voilà, ils prennent jamais des gros cartons, jamais. Et donc, ceci pour vous dire qu'on a vraiment besoin de toutes les bonnes volontés pour descendre les livres qui sont dans les placards de... Non,
ah bon. C'est qui reste la question de suite pour ça, et puis il y a l'équipe qui est là. Merci.
Ouais, mais je ne sais pas si tes réserves sont d'équipe, sont... on vous mettra pas à la porte. Rassurez-vous. Il faut virer tous les bancs, toutes les chaises, il faut tout installer, ça fait quand même pas mal. Voilà. Teresa, pas des choses à dire là-dessus? Pardon? Ouais, mais il faut quand même les sortir, il faut les... Ouais. Quand même. C'est installé quand? Ah oui, d'accord. Alors, téléphonez à Teresa. À sœur Teresa, qui, par un miracle dont elle a le secret, vous dira comment organiser tout ça. Alors, j'ai une autre annonce à vous faire, j'ai encore deux autres annonces à vous faire. Dimanche prochain, à 8h40 précise, il y a un rendez-vous qui est donné aux jeunes d'environ 6 ans à une quinzaine d'années, gare d'Austerlitz, pour une sortie de jeunes, autour du groupe FSA. Donc, 8h40, précise, gare d'Austerlitz. Vous ne vous trompez pas. Hein, à l'endroit indiqué sur le plan joint. Mais je n'ai pas le plan joint. C'est à la cour de l'arrivée à la sortie du métro 5, de la ligne 5. Hein. Attention, il faut des vêtements adaptés parce que ça va se passer en forêt. Un pique-nique, un peu d'eau et la somme extraordinaire de 5 euros. Au pire des cas, vous appelez... nos amis Tatichev qui vous diront tout. Il va y avoir une vente de gâteaux aussi, là. J'aimerais bien que le FSA vienne faire son annonce. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire, là, maintenant. Dimanche prochain, 10 avril, il y a 80 chances ou 90 chances sur 100 pour que Arte, la télévision, vienne faire un reportage ici de 12 à 15 minutes sur le foyer de l'âme. Hein, vous avez bien entendu. Et il est bilingue. Hein, j'ai vu la présentation de l'émission en question. C'est vraiment bilingue. Donc c'est destiné aux Français et aux Allemands, et en particulier aux jeunes. Et donc, Arte viendrait prendre un contact avec les quelques enfants de l'école du catéchisme qui seront là, ceux qui ne seront pas partis en forêt, évidemment. Mais ils vont filmer le culte aussi. Alors, le film est très léger, la caméra est sur le dos du technicien, et c'est tout. Donc, c'est pas tout un attirail qui vient, on sera pas gêné. Voilà. Donc, si j'aurai la confirmation de la date, ou alors ce sera au mois de mai, mais j'aurai la confirmation de la date dans la semaine, donc je peux pas vous dire que c'est à 100% d'accord. Mais ceci dit, si je vous dis ça, c'est que si un reportage au foyer de l'âme, et s'il y a un culte qui est filmé en partie, il faut qu'on soit quand même un peu présent. Ça me semble un peu un moindre des choses, parce que si on est... Dans mes statistiques, depuis le mois de janvier, le culte où il y a eu le moins de monde, c'est 50. Celui où il y en a eu le plus, c'est 120. Donc il vaut mieux 120. Alors... Faites marcher le téléphone arabe, comme on dit, pour dire, bah, écoutez, là, il y a peut-être un culte un peu spécial ce dimanche 10 avril. Je dis très, très vraisemblablement. Hein, je vous le dis, voilà. Bon, peut-être que ce ne sera pas le cas, mais ce sera reporté à ce moment-là. Voilà. Hein, donc, je voulais vous en faire part, parce que c'est quand même une chance. C'est quelques millions d'auditeurs et de spectateurs qui vont quand même réaliser qu'au foyer de l'âme, il y a des choses qui se passent. Et au niveau de l'assemblée, au niveau de la musique, et ainsi de suite, hein, aussi. Parce que j'ai demandé à comment ça s'appelle, à Frédéric, de jouer plutôt du Bach ou des choses comme ça, parce que les Allemands, au moins, bon, ça leur parle un peu. Voilà. Évidemment. Voilà. Ça fait pas mal, hein? D'autres annonces, j'ai rien oublié, là, en dehors de les ventes de gâteaux au chocolat. Oui?
Donc, bonjour, on est les Panthères de FSA Bethany.
Les Panthères?
Les Panthères, oui. Et donc, on vient aujourd'hui faire une vente de gâteaux pour notre projet de patrouille, qui est de faire un carnet de chant pour toutes les personnes présentes au FSA. Environ 100 personnes, donc c'est pour ça qu'il faudrait acheter tous les carnets et tout. Donc voilà, et donc on vous invite à déguster nos gâteaux et à nous aider aussi un peu. Voilà, et donc voilà, moi je suis la chef de patrouille, je suis Fanny. Là il y a Mélodie, Lou, Anne, et en train de surveiller les gâteaux, il y a Justine. Donc voilà.
Et qui surveille là-bas.
Oui.
Très bien. Donc c'est pour les carnets de chant.
Ouais.
C'est ça.
Pour les carnets de chant. Ouais. Voilà. Merci.
Les anciens éclaireurs, éclaireuses et louveteaux, si vous voulez avoir quelques souvenirs. Voilà. Mais écoutez, on va rester. Merci aux Panthères qui ont quitté l'Arche à un moment donné pour vous faire part de cette annonce. Et je vous invite à participer à l'offrande. On est un petit peu en décalage. On a commencé en retard à cause du marathon de Paris. Hein. Je veux dire, quand il y a cet événement, on a pitié de ceux qui sont un peu loin et qui essayent de traverser comme ils peuvent. Ouais. Oui. Alors oui, pour ceux qui n'ont pas tout à fait réalisé, aujourd'hui, c'eût été le jour de l'Assemblée Générale, normalement. Mais on l'a décalé. Hein, pour des raisons de trésorerie, et elle a lieu, je ne sais plus quand, là, le 29 mai. Hein? Donc notez-le sur vos tablettes, la prochaine l'Assemblée Générale de la paroisse aura lieu le 29 mai, dans les conditions, on espère, normales. Ça marche, ça? Puisqu'on a dit qu'il y avait un problème de trésorerie, on va y rester, puisque c'est le moment de l'offrande, et que... N'hésitez pas à participer. Quand vous êtes en hiver, il fait bon, il fait chaud dans ce temple. Ensuite, il est assez bien entretenu. Mais sachez qu'il va falloir refaire le chauffage, par exemple. Parce que la chaudière a un âge canonique pour une chaudière et que normalement, elle est en soins palliatifs et qu'elle ne passera pas l'hiver. Et donc, la chaudière, il faut la remplacer. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est à nous de faire ce qu'il faut pour qu'on puisse le faire, si vous voulez. Voilà. Alors, c'est un des usages. Un autre usage, ben, vous voyez, c'est éditer les chants scouts en participant au gâteau. C'est un tas de trucs comme ça qui fait que nos communautés sont vivantes, hein, finalement. Hein. Il n'y a pas 36 000 solutions. Donc, je vous invite à participer à ce moment d'offrande. Et pour vous y aider, je vous invite à chanter le cantique 252 que vous connaissez bien. Voilà, en pensant à tous ceux qui sont à la dérive, tous ceux qui sont en butte aux questions existentielles, tous ceux qui sont face aux problèmes du mal et qui le subissent, que ce soit des proches que vous pouvez nommer ou des lointains, dont on imagine les situations difficiles, et puis aussi en pensant à l'Église, je vous invite à partager notre prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, vous allez repartir dans l'océan du monde, si je puis dire, mais repartez en ayant la certitude que Dieu est à vos côtés, comme il est présent dans la barque de Noé, dans celle des apôtres ou dans celle de l'Église. Oui, le Seigneur est vraiment avec vous, complètement avec vous, pour que vous puissiez porter sa parole jusqu'au bout du monde et que vous puissiez surtout en vivre dans l'espérance et dans la joie. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, maintenant et pour toujours. Amen. Thank you.